There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Chaque année en France, un enfant sur 30 naît grâce à la procréation médicalement assistée, la PMA, qui sera ouverte d'ici cet été, selon le gouvernement, aux couples de femmes et aux femmes seules. Le projet de loi sur la bioéthique, dont la mesure phare est la PMA pour toutes, a été voté le mardi 15 octobre en première lecture à l'Assemblée, à quelques mois de son adoption définitive. Les opposants à cette mesure défilent dans la rue. Ils étaient près de 75 000 le 6 octobre à Paris. D'autres manifestations sont prévues. Dans ce contexte, chez Code Source, nous avons voulu prendre le temps d'écouter Bastien, né d'une PMA réalisée en Belgique il y a 23 ans. J'ai deux mamans et alors, c'est un reportage de Claudia Prolongeau.
Je m'appelle Bastien, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en cinéma, j'habite à Paris depuis 5 ans et avant ça j'habitais dans une ville de taille moyenne dans le centre de la France.
Bastien consacre presque l'intégralité de son temps au cinéma. Entre deux séances, il accepte de me rencontrer. C'est un jeune garçon brun, souriant et sympathique, qui ressemble à n'importe quel autre étudiant parisien.
Le cliché de les petites villes, les villages, oh là là, c'est pas comme dans les grandes villes, ils sont fermés d'esprit, c'est faux, c'est complètement faux. Moi j'ai passé la moitié de mon enfance à aller souvent dans un petit village, et ça n'a jamais posé de problème, quoi, vraiment. Et tout le monde le savait, quoi. Et quand il savait pas, j'expliquais. Ça a jamais été un souci. Mon enfance a été très simple, en fait. J'ai jamais eu de soucis à cause de ma famille, quoi. Vraiment, ça a toujours été accepté par tout. Tout le monde le savait, tous mes amis le savaient. Et quand ils le savaient pas, je leur expliquais ça pendant 3 secondes, quoi. Je suis né grâce à une PMA et j'ai 2 mamans. Je me rappelle la seule anecdote un petit peu rigolote que j'ai avec ça, c'est sur les fiches à l'école où il fallait marquer le métier du père et de la mère. Quand j'étais plus petit, bah, je rayais père, tout simplement, puis je marquais mère à chaque fois. Mais le problème, c'est que mes 2 mamans font le même métier. Donc en fait, je marquais 2 fois le même métier, et puis alors c'est arrivé qu'il y ait les profs qui viennent me voir, qui disent « Tu t'es trompé, là t'as marqué 2 fois la même chose, donc fallait que j'explique, et puis voilà. » Et il y a eu un moment où en fait, j'en ai juste eu marre, mais pas parce que c'était juste de la flemme en fait. C'est juste, je me disais « Bon, j'ai pas à expliquer, c'est bon, ils font leur recherche, donc je barrais juste père, et puis voilà quoi. » Oui, une enfance heureuse, oui, ça va, sans moindre doute, ouais. Ça n'a jamais gêné les gens en face de moi quand je leur disais que j'avais 2 mamans. En fait, dans la ville où j'ai grandi, tout le monde le savait. Parce que bah, c'est une petite ville, donc en fait, tout le monde connaît la situation à peu près de tout le monde. Et puis, généralement, quand j'arrivais au collège ou au lycée, il y a forcément des gens qu'on rencontrait. Donc, je leur expliquais la situation à nouveau. Et ça durait peut-être 2 secondes d'incompréhension où ils disaient « Ah merde, en fait, son père est mort. Ah non, il n'est pas mort, il n'en a pas. » Bon, ok. Et puis, ça passait à autre chose. En fait, ça n'a jamais été un choc pour eux. J'avais des amis qui avaient qu'un père, qu'une mère, des parents divorcés. Enfin, j'ai jamais vu la famille comme un papa, une maman, et c'est tout. Mais c'est vraiment récemment, j'ai envie de dire, depuis que je suis à Paris, puis surtout depuis qu'il y a tous ces débats autour de la PMA, que je me suis rendu compte vraiment que le modèle familial dans lequel j'avais grandi n'était pas forcément accepté par tous et aussi simple que moi je l'ai toujours ressenti.
Comment vous les appelez ?
Maman et marraine, tout simplement pour différencier les deux. Quand j'étais petit, je disais juste maman, elle m'a raconté ça à plusieurs reprises, donc j'appelais maman, et puis les deux arrivaient en courant, donc forcément, à un moment, ça devient compliqué, donc il a fallu trouver deux mots. Mais sinon, il n'y a aucune différence pour moi, ouais. Légalement, ça a été un peu plus compliqué. Je sais que ma deuxième mère, jusqu'au mariage pour tous, et moi, elle a pu se marier avec ma mère, n'était pas reconnue comme ma mère. Ma mère, elle n'est toujours pas reconnue comme ma mère. D'ailleurs, elle a pu m'adopter, maintenant qu'elle est mariée. Mais avant ça, c'était beaucoup plus compliqué. Elles m'en ont toujours parlé, en fait. J'ai toujours su, quand j'étais petit, que j'avais deux mamans. Et en même temps, ça me paraît logique, parce que bon, je vois pas, à 15 ans, ma mère qui me dit « Faut que je dise un truc, je suis pas ton père. » Après, les détails de comment ça s'est passé, progressivement, on me le racontait de plus en plus, mais tout simplement parce que j'étais trop jeune pour comprendre et pour m'y intéresser. Très franchement, quand on a 10 ans, on s'en fiche un peu de tout ça. Là, c'est très récemment qu'on en parle beaucoup plus, logique, parce qu'avec l'actualité, forcément, je pose plus de questions à mes parents. Ça a toujours été quelque chose que j'ai su. Et dans ma famille, tout le monde le sait, tout le monde en a parlé très ouvertement, donc c'est pas, ça n'a jamais été un secret. Maintenant, après, voilà, il y a des choses qu'on peut expliquer plus facilement à quelqu'un d'adulte qu'à un enfant.
Bravo pour votre courage !
La Manif pour tous existe depuis le 17 novembre 2012. En France, c'est le principal collectif d'associations à l'origine des plus importantes manifestations d'opposition à la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.
Bravo, le politiquement correct et les injonctions moralisatrices au nom d'une pseudo-égalité.
Je suis arrivé à Paris juste après la Manif pour tous, je pense. J'ai plus les dates en tête, ça fait 5 ans que je suis là, donc voilà. Et donc c'était encore vraiment très très présent quand je suis arrivé.
En venant manifester aujourd'hui, vous sonnez le tocsin. Le danger en effet que nous annoncions est désormais là.
Mais je ne l'ai pas vécu en tout cas, j'étais pas à Paris au moment où ça se passait, et là où j'habitais, il n'y a eu aucune manif, donc je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai vraiment vécu ça de loin, ça c'est pas plus mal.
7 ans après sa création, alors que les députés viennent d'adopter la loi bioéthique qui ouvre la PMA à toutes les femmes, il renaît de ses cendres. Le dimanche 6 octobre, une manifestation pour contester le vote de cette loi réunit à Paris 74 500 personnes, selon un comptage indépendant.
Je pense que dans ce débat, il y a une part évidente d'homophobie de la part de certaines personnes.
Comment voulez-vous qu'un enfant soit né de deux femmes ? Où est-ce que vous avez vu jouer ça ?
Un enfant a besoin d'un père, un père a besoin d'un enfant.
Je ne dis pas du tout que je sois homophobe, mais...
Je pense que le vrai cœur du débat, il est autour du sexisme et du féminisme, qui est vraiment là-dessus. C'était M. Mélenchon qui avait fait un discours à l'Assemblée nationale, et qu'on soit pour ou contre sa politique, là, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire qu'il a dit quelque chose de vraiment très très bien.
L'argument que je voudrais récuser, chers collègues, c'est que la nouvelle situation exclurait la présence des hommes. Du père, certes, ça va être formellement le cas sur l'état civil, mais des hommes, non. Car le couple de femmes a des frères, à des pères, et peut-être des fois des fils. Donc il y aura des hommes. Ils seront présents tels qu'ils sont.
Il expliquait qu'en fait, le vrai problème avec la PMA, c'était que c'était la fin du patriarcat, et qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à l'accepter, ça. Quand j'ai témoigné dans Le Parisien, j'ai vu un peu les commentaires, les retours des gens, et pas une majorité, mais une bonne partie, un bon tiers des commentaires, c'était des hommes qui disaient « Ah bah du coup, les hommes, on sert plus à rien, ah bah bravo, ah bah voilà ce que le féminisme nous amène. » Je pense que ce qui dérange beaucoup de gens, c'est cette idée que les femmes n'auraient pas forcément besoin des hommes pour avoir des enfants. Et ces hommes-là se disent « Ah bah du coup, on sert à quoi ?» Et c'est récurrent, tous les ans, on a une avancée dans le féminisme, et tous les ans, on a les mêmes personnes qui vont venir nous rabâcher que « Oh là là, c'est la fin du monde, on va tous mourir si les femmes prennent un peu de pouvoir. » C'est assez stupide, mais voilà.
On est là aujourd'hui pour représenter la liberté d'expression. On s'exprime contre une loi qui est en train de passer et qui nous révolte parce qu'elle est profondément contraire aux lois naturelles et aux droits de la femme, aux droits de l'enfant surtout, et aux droits des pères. Voilà, on met les pères de côté, on ne les écoute pas, on les enlève en fait carrément du système familial.
Les manifestations ne me gênent pas trop, dans le sens où je trouve ça bien qu'ils puissent manifester. En fait, à partir du moment où on veut s'exprimer, c'est très bien qu'ils puissent le faire. Ça serait plus problématique si on interdisait des gens de manifester. Maintenant, hostilité, je la ressens un petit peu sur les réseaux sociaux récemment, parce que j'ai commencé à prendre la parole. Et donc forcément, il y a des gens qui sont toujours de façon très anonyme et qui viennent pas forcément insulter, mais qui essayent un petit peu de chercher des problèmes. Récemment, on m'a traité d'égoïste parce que j'ai expliqué que j'avais pas de problème, en disant « t'es égoïste de raconter que toi ça va bien parce que t'es qu'une seule personne ». Mais je comprends, et puis alors on donne d'autres témoignages, et puis après ils trouvent autre chose. Donc après, il y a des gens qui sont vraiment juste dans la confrontation. Et quand c'est comme ça, ça me touche pas, parce que je vois très bien que c'est juste des gens qui se sentent attaqués. Je sais pas exactement pourquoi, parce que je connais pas leur situation personnelle, mais c'est pas des gens qui sont contre moi ou contre la PMA. Ils ont un problème intime avec ça, et après c'est à eux de le déconstruire. C'est pas quelque chose qui, moi, va me toucher en tout cas.
Nous avons 4 enfants. Mon mari a été pour beaucoup dans l'éducation des enfants. Ça leur a apporté une stabilité, je pense, d'avoir les deux parents. Pour créer naturellement, ils font un papa et une maman. Et moi, comme je pense qu'un enfant est un don de Dieu, il faut les deux.
Il faut un père. Il faut un père.
Le fait de priver un enfant volontairement de père pose évidemment problème. Ce projet de loi, et ça a été dit certainement avant moi, pose bien d'autres questions. Il n'y a eu aucune réponse, c'est la raison pour laquelle nous avons finalement, avec une vingtaine d'associations, tous ensemble, donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui.
Je comprends que pour certaines personnes issues de PMA, ça soit douloureux de ne pas savoir qui est leur géniteur. Moi, c'est pas mon cas déjà, mais je parle que en mon nom. C'est pas une généralité du tout que je fais. J'ai une curiosité qui est une curiosité génétique, j'aimerais bien savoir s'il y a des maladies, des trucs comme ça. Quand on va voir un médecin et qu'on demande est-ce que il y a des antécédents cardiaques dans la famille, nous on n'a qu'un côté, on peut pas dire des deux côtés, on peut pas dire oui mon père est... on sait pas pour ça. Donc juste sur ça, ça pourrait être intéressant. J'ai jamais vu, même si ça doit exister, mais j'ai jamais vu de personne qui me disait j'ai deux mères, j'aimerais bien savoir qui est mon géniteur parce que il me manque, j'aimerais savoir qui est mon père. Si géniteur et père, c'est pas les mêmes mots, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas la même chose. Un géniteur, c'est pas mon père, c'est pas quelqu'un qui m'a élevé, c'est un inconnu complet. Ça m'a jamais intéressé parce que c'est pas mon père.
Modifier les paramètres de cette PMA va forcément retentir sur l'enfant.
J'ai pris la parole publiquement quand j'ai vu passer cette vidéo, en fait.
Sur les images, Pierre Lévy-Soussan, psychiatre et psychanalyste et expert auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, prend la parole au Palais Bourbon. La vidéo est retweetée le 7 septembre par le compte de la Manif pour tous.
Et dans une situation où, par exemple, il n'y aura absolument pas de père tout court, c'est-à-dire je ne parle pas justement de père biologique, mais lui supprimer justement cette valence qui permet jusque-là à tous les enfants issus de PMA à pouvoir se penser venir justement du couple, on sent bien que ces enfants seront défavorisés par rapport à d'autres.
Puis j'ai fait une réponse en disant « Bonjour, je me permets de vous répondre parce que je suis issu de PMA et je vais bien et je le sens mieux que vous parce que c'est mon cas. » Donc j'ai répondu publiquement, ça a été beaucoup partagé. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un déséquilibre au niveau de la parole, en fait. Qu'on ne laissait pas la parole aux enfants issus de PMA et qu'on donnait beaucoup la parole à ceux qui ne connaissaient pas du tout cette situation. Je ne me considère pas comme un militant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'accusent de l'être. Pour pas mal de gens qui sont contre la PMA, à partir du moment où on est un enfant issu de PMA, on est militant. Ce qui veut rien dire, parce que ça voudrait dire que tous les enfants nés de couples hétéros sont militants aussi pour l'hétérosexualité. Ça n'a aucun sens. Je ne me considère pas comme militant, mais... Je pense que c'est important pour moi de témoigner parce que des enfants issus de PMA qui sont majeurs actuellement, déjà on n'est pas des milliards, et qui sont majeurs et qui acceptent de témoigner, on est encore moins. Donc je pense que c'est important de le faire parce que si nous on parle pas, c'est les autres qui parlent pour nous et quand on laisse parler pour nous, on voit ce que ça donne. En fait, on projette des fantasmes sur nos vies, souvent parce qu'il y a une peur. Pour certaines personnes qui disent « Ah ben oui, mais les pauvres gosses, ils ont pas de père. Qui va leur apprendre à faire du vélo ? Pas besoin d'être un homme pour apprendre à ton gamin à faire du vélo, quoi. C'est pas un truc... » Donc je fais ça quasiment tous les jours maintenant, sur Twitter. Je suis content que le débat arrive, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient bien passés de tout ça, et je pense que ça serait bien que le débat ne dure pas 6 mois. C'est comme pour le mariage pour tous, quoi. Il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, parce que sinon ça devient ridicule, et puis... Là, on n'est pas encore au stade où ça devient vraiment blessant, même si moi, je mets toujours à la place d'un enfant de, on va dire, 12-13 ans, qui a deux mamans, issu de PMA. Il se connecte à Internet, puis il voit une publicité qui lui dit « Ah, t'es pas normal, t'as un problème. » C'est une violence qui est assez forte, donc je me dis c'est quand même important que s'il regarde les commentaires, il voit qu'il y a des gens qui disent « Non, c'est faux » et qui déconstruisent un peu le discours, et puis qu'ils puissent se dire « Ah ben en fait, il y a des gens comme moi et que... Ça existe, quoi, qu'ils se sentent moins seuls. Je suis content de pouvoir faire ça pour eux, quoi.
Une autorité, et la maman n'a pas toute l'autorité.
Si on commence à faire juste des pères ou juste des mères, on va vers un autre modèle de société où les enfants vont évoluer différemment.
le père n'apportera jamais quelque chose de maternel quand même. Hein. C'est pas dans son caractère. Hein. C'est plutôt le commandement.
Et les différences entre l'homme et la femme, on a nos différences, c'est le cas. La mère apporte une forme d'amour. De maternité, l'amour apporte l'enfant. Le père, il y a un côté de virilité, il y a un côté de soutien, de cadrage dans comment se défendre dans la vie. Un côté peut-être plus physique, masculin, virilité que l'enfant a besoin. Du côté de la mère, quelque chose de plus amour, tendresse, etc.
Bah, il va leur manquer quelque chose dans leur éducation, dans leur affectivité, dans leur identité. Bah, de savoir se positionner, notamment pour les garçons, en tant que garçon et filles en tant que filles.
Je veux pas être méprisant envers ces gens parce que... Sincèrement, je comprends pourquoi ils manifestent et je comprends vraiment ce qui les anime. J'espère que c'est une majorité, on va dire que c'est une majorité. Je vais y croire qu'ils sont là parce qu'ils ont peur pour nous et qu'ils veulent juste notre bien. Donc j'ai envie de dire, ok, c'est très bien, ces gens-là, on peut les rassurer. Bon, après, il y a une autre partie qui sont plutôt là pour des... parce qu'ils sont homophobes, parce qu'ils ont des soucis avec tout ça, et là, c'est plus compliqué. Et j'espère qu'il y a une partie qui sont juste là parce qu'ils ont peur pour nous et ces gens-là, moi, j'ai juste envie de les rassurer. Après, il y a des trucs je trouve assez limites. Par exemple, le choix des dates pour les prochaines manifestations. Les dates qui ont été choisies sont des dates qui sont dates importantes pour les luttes féministes, homosexuelles et autres. Et donc, c'est pas des dates choisies au hasard. Et ces dates-là reflètent aussi qu'il y a tout un courant dans ces manifestations qui est pas du tout là pour la PMA, mais qui est juste là parce qu'ils sont motivés par leur homophobie, par leur sexisme, par plein d'autres choses qui sont plus problématiques.
Oui, parce que là, il y a le 1er décembre qui est supposé être la journée contre le sida, il y a le 8 mars qui est la journée du droit des femmes.
Ça, par contre, ça me pose un souci, quoi. Qu'ils fassent des manifestations, c'est très bien, mais qu'il y ait un peu de respect des deux côtés, quoi. Qu'ils commencent pas à choisir des dates qui sont réservées à d'autres luttes, d'autres causes, qui viennent pas un peu phagocyter tout avec leurs convictions. Ils se sont rendus compte que tout le monde s'en fiche un peu de ce qu'ils font et que leur manifestation n'a pas été la révolution qu'ils voulaient. Donc ils essayent un petit peu d'attirer l'attention comme ils peuvent et choisir ces dates, c'est de la provoque, quoi. C'est essayer de dire, ouais, on est là, regardez, parlez de nous, quoi.
Moi j'aime les hommes, alors je trouve que c'est vraiment minable de les réduire à donneurs de sperme. Parce que là on leur enlève tout et on leur dit, vous n'êtes bon qu'à filer vos spermes.
J'ai jamais été dans les manifs comme ça, je vois les images de loin. J'ai hésité à aller à la dernière manif par curiosité, pour essayer de parler avec des gens, parce que j'aime bien quand même avoir ce contact et puis essayer de comprendre un peu ce qui les motive. Quand on parle à certains de ces gens, il y en a qui partent vraiment, et ça m'est arrivé sur Twitter, quelqu'un qui arrive en me disant « Oh là là, PMA, c'est la fin du monde », prend un quart d'heure, on parle avec cette personne, puis à la fin de la conversation, c'est « Ah bah merde, je savais pas, bah ok, bon bah ouais, la PMA c'est bien en fait ». Je me suis jamais posé la question d'à quel point ma filiation a structuré mon identité. Le fait d'avoir deux mères, déjà... Je pense que je suis un peu plus ouvert sur certains trucs, sur le fait que bah, une famille, il n'y a pas un modèle en particulier, sur la place des femmes dans la société, beaucoup. Ouais, je pense que c'est les deux gros apports que ça a eu sur moi. C'est vraiment ça, c'est le féminisme et le modèle familial, quoi.
Moi, je pense que c'est tout à fait légitime de poser la question. Écoutons les enfants, qui maintenant sont devenus adultes dans beaucoup de pays, et qui nous disent comment ils ont vécu entre deux mères ou avec seulement une mère. Étudions les études très nombreuses effectuées en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Europe du Nord, qui étudient ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des groupes d'enfants, qui sont suivis de la naissance jusqu'à 25 ans. Et on regarde si ces enfants, nés de PMA, dans un couple ou un autre, ont des limitations, un manque d'épanouissement. Eh bien, ils vont tous, aussi bien que les autres enfants, même légèrement mieux. C'est-à-dire, tous les enfants de PMA n'ont aucune différence que leurs parents soient hétérosexuels, homosexuels ou femmes seules.
Pour m'avoir, c'était très compliqué pour mes mamans. Donc elles sont allées en Belgique. Ça a pris des années, hein, mais elles l'ont fait. Donc ça prouve quand même qu'elles m'ont vraiment voulu. Généralement, les enfants nés de PMA, c'est pas un caprice de la part de leurs parents parce que ça demande un investissement qui est absolument énorme. Donc... quand on est né de PMA, on peut au moins avoir cette garantie-là que nos parents nous voulaient vraiment, que nos parents se sont préparés pendant longtemps à nous avoir. C'est généralement un bon départ dans la vie.
Claudia, quand on écoute Bastien, on a vraiment le sentiment qu'il n'a jamais souffert de ne pas connaître son géniteur. C'est le cas ?
Oui, ça a vraiment l'air d'être le cas. Pour lui, c'est une question qu'il ne s'est même jamais posée. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il considère que ça ne lui manque pas au même titre que nous,
Une deuxième maman ne nous manque pas, juste ça ne fait pas partie de son schéma familial.
Bastien a l'air tout à fait prêt à témoigner, à dialoguer aussi. En même temps, on sent qu'il a un peu peur que les choses s'enveniment, comme au moment de la manif pour tous.
Oui, Bastien, il témoigne parce qu'il a le sentiment que ça peut nourrir le débat. Mais très clairement, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Il a une vie par ailleurs qu'il a envie de mener et il n'a pas du tout envie de devenir le symbole de quoi que ce soit.
Merci Claudia Prolongeau et merci à Christine Mathéus du service Société du Parisien pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier-Amouroux, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.